1944, Brest est presque entièrement détruite par les Alliés. Sa situation stratégique de port militaire avait attisé les appétits des nazis et il fallait la libérer. Les Américains entrent dans la ville le 7 août et les Allemands déclarent l'état de siège 3 jours plus tard. Celui-ci va durer jusqu'au 18 septembre. 65 ans après, la ville reconstruite reste meurtrie. La mémoire collective n'a par exemple pas oublié l'explosion de l'abri Sadi Carnot, causant la mort de plusieurs centaines de personnes, dont près de 400 civils. L'historien Alain Boulaire a bien voulu revenir pour nous sur ces événements qui ont marqué l'histoire de Brest.
Comme toute la France a connu la drôle de guerre pendant un temps, il ne s'est pas passé grand-chose entre 1939, le 1er septembre 1939 et 1940, sauf quand même un événement important à Brest, c'est-à-dire le départ de l'expédition de Narvik. C'est-à-dire que les troupes du général Bétoir sont parties de Brest pour essayer de mener la guerre en Suède pour couper la fameuse route du fer et de l'eau lourde. Par contre, à partir de juin 1940, les choses vont se précipiter, puisque le 18 juin 1940, tous les bateaux présents à Brest quittent le port, avec en particulier les écoles navales, l'école des Mousses, etc., mais aussi des civils sur des paquebots comme le Meknès. L'or de la Banque de France quitte Brest sur le Pasteur pour être installé à Fort-de-France. Quelques jours auparavant, le général de Gaulle avait quitté Brest à bord du Milan. Donc, si vous voulez, lorsque les Allemands, donc c'est le 18 juin 40 qu'il y a tout cet exode massif, avec on va couler les bateaux, on va s'aborder les bateaux qui ne peuvent pas prendre la mer. C'est le cas du sous-marin Wesson, par exemple, avec le quartier-maître Anquetil, qui est l'électricien de bord, qui va jouer après un grand rôle dans la résistance et qui fracasse ses instruments chéris, je dirais, de communication sous-marine avant que le bateau ne coule. Donc, lorsque les Allemands arrivent le 19 juin 1940, donc c'est qu'ils étaient très près, ils étaient déjà à Rennes quand tout cela s'est passé, le port est vide. Le port est vide, il n'y a plus que quelques officiers, l'état-major est démantelé, je dirais. D'abord, beaucoup d'officiers sont partis en Angleterre. Donc c'est un port un petit peu étrange et ensuite de cela, la Brest qui est en zone occupée, à la différence de Toulon bien sûr, qui est le grand port rival, Brest va vivre au rythme de l'occupant en fait. Et après que les Allemands aient voulu faire de Brest le grand port atlantique de combat, le fait que le Bismarck ait été coulé en voulant gagner Brest va mettre fin à ce désir nazi d'avoir une flotte de surface à Brest, et on va remplacer ça par les sous-marins. Et donc, à partir de ce moment-là, Brest va être une grande base sous-marine en Atlantique, avec des épisodes fameux comme la venue, par exemple, d'un sous-marin japonais venu chercher avec deux équipages un sous-marin que leur donnaient les Allemands. Et donc, Brest vit à ce rythme du retour des sous-marins, ennemis pour la population, c'est très clair, qui arborent le nombre de bateaux qu'ils ont coulés, donc quelque chose de très dur. À l'arsenal, la vie continue, mais pour l'occupant, et à un rythme extrêmement léger, je dirais. Donc, on a une vie très spéciale, et cela va se terminer par des bombardements extrêmement nombreux, et surtout, à partir du moment où va se déclencher le siège de Brest, donc les Américains ont débarqué.
Alors, on peut rappeler la date, Alain Boulaire ?
Oui, alors le siège de Brest va commencer, il va durer 37 jours, il se termine le 19 septembre, et donc il doit commencer aux alentours de la mi-août.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par siège de Brest exactement ?
Alors, les Américains voulaient récupérer Brest, puisque pendant la Première Guerre mondiale, Brest avait été le principal port américain en Europe. Donc, ils le connaissaient parfaitement bien, ils en avaient les plans, ils en avaient les installations, et l'idée fondamentale du gouvernement américain et de l'état-major américain était de récupérer Brest en premier lieu. Et il se trouve qu'entre la Normandie et Brest, il s'est passé beaucoup d'épisodes, dont la résistance des Allemands qui a été plus forte que prévu. Toujours est-il que l'armée américaine a perdu du temps et elle a donné le temps aux nazis, parce qu'il faut bien dire là les nazis, la garnison de Brest était prête plus ou moins à se rendre. Par contre, Hitler a envoyé des troupes d'élite, entre guillemets, Et du coup, le siège de Brest va être beaucoup plus dur que prévu, et il va y avoir des combats très violents. Il va y avoir du coup, de la part des alliés, et en particulier des forteresses volantes anglo-saxonnes, un pilonnage permanent de Brest. On estime qu'il y a eu à peu près 30 000 tonnes de bombes à tomber.
Ça a détruit la ville à quel pourcentage? 80% c'est le pourcentage?
Alors
qui est donné,
oui, la ville a été détruite à 80-90%, mais la ville intramuros, c'est là où il y a parfois ambiguïté, c'est-à-dire la ville qui était encore enceinte de remparts.
Ça correspond à quel lieu?
Ça correspond à Recouvrance jusqu'à la place de la Porte, enfin la rue de la Porte. Ça correspond de l'autre côté à la ville jusqu'à la place de la Liberté, en gros, toute cette zone-là. Alors, du côté de la gare aussi.
Donc, ce qu'on appelle le centre-ville.
Voilà, ouais. C'est le centre-ville et la partie de Recouvrance, qui est donc aussi le cœur de Recouvrance, le cœur ancien, quoi. Et là, effectivement, les destructions sont massives, mais on est un petit peu étonné parfois, mais il faut s'imaginer que les avions larguent leurs bombes de très très haut, ou que des bateaux bombardent de très loin, parce qu'on est un petit peu surpris de voir que la base sous-marine, finalement, n'est pas si bombardée que ça. On est surpris de voir que le château, l'intérieur, effectivement, va être détruit, mais les murailles sont relativement préservées, je dirais, alors qu'il y a d'autres endroits qui sont complètement rasés. Je pense que c'est tout simplement parce que on ne visait pas, on ne pouvait pas viser bien. Aujourd'hui, on a des systèmes de visée très précis. On parle même de frappe chirurgicale. Là, c'était vraiment la volée de bombe. Et donc, la volée de bombe en plein vol, après, je ne dirais pas que ça allait n'importe où, mais quasiment.
On peut dire aussi, Alain Boulaire, que pendant cette période, les Brestois sont évacués. Il en reste à peu près 2000 dans les rues.
Oui. Alors, ça surprend toujours un petit peu aussi quand on voit les faits de guerre, parce qu'il y a deux termes qui semblent un petit peu incompatibles. Ce sont les lois de la guerre. Bon. Eh bien, il y a des lois, aussi bizarre que ça puisse paraître, et il y a eu un accord entre les Américains et les Allemands pour que la population civile, et les Brestois, enfin la population brestoise, pour que la population civile brestoise qui n'avait pas besoin de rester en ville puisse évacuer. Et ça surprend toujours un petit peu, parce qu'il y a une trêve, donc, de quelques heures, où les gens s'en vont. Alors ils vont s'en partir dans tous les environs de Brest, de manière assez éloignée, et les Allemands les laissent partir, et les Américains les laissent passer.
Et ça fut très court, à peu près 2-3 heures, c'est ça?
Ah oui, ouais. Oui, ça a été très très bref.
Très vite. Ouais.
Ça a été très bref, mais ça surprend un petit peu, parce qu'on a l'impression, parfois, quand on voit des faits de guerre, que les gens, on leur demande pas leur avis.
Il faut détruire le plus possible, y compris la population.
Voilà. Donc, Brest, effectivement, à ce moment-là, n'a plus qu'à peu près 2000 habitants et une délégation spéciale qui est conduite à ce moment-là par Victor Rezin.
Vous parlez de Victor Rezin qui va mourir dans l'incendie de l'abri Sadi Carnot. Est-ce qu'on peut évoquer ce moment aussi? Il y avait plus de 300 Brestois dans l'abri, des Allemands aussi.
Alors, les abris servaient évidemment à se protéger des bombardements. C'est-à-dire qu'il y avait des sirènes. C'est depuis d'ailleurs que l'on a conservé l'usage des sirènes pour des événements, enfin ça datait un petit peu d'avant, mais pour des événements graves, et qu'il y a des essais tous les
essais de mercredi,
tous les mois,
premier mercredi
du mois. Donc il y avait des sirènes, en général, qui alertaient la population qui se mettait dans les différents abris, donc qui ont été commémorés l'autre jour à Brest, et l'abri Sadi Carnot était un de ces abris. Alors, au point de vue de la vie quotidienne, ce qui est intéressant dans ces abris, je pense, une des choses à retenir, c'est qu'ils conduisaient à une promiscuité sociale. C'est-à-dire que des gens qui, dans la vie quotidienne, ne se seraient jamais rencontrés, se retrouvaient dans les abris, et en plus de ça, dans le même état d'esprit. C'est-à-dire la peur, mais aussi l'impression d'être en sécurité pour un moment, et puis dans l'attente. Qu'est-ce qu'on allait trouver en sortant? C'est-à-dire, ça, il faut vraiment s'imaginer cela. Est-ce que je vais retrouver ma maison? Est-ce que je vais retrouver... Voilà, c'est quelque chose. Alors, qui petit à petit était devenu récurrent, donc on le sentait moins, parce qu'en plus de ça, il y avait un sentiment ambigu, surtout pendant le siège. On souhaitait la victoire des Alliés, très souvent, mais à quel prix, quoi. Voilà. Et donc là, pour la Brice Ali Carnot, ça montre bien dans quel état d'esprit on était, puisque les Allemands aussi s'étaient cachés. Ils étaient aussi dans l'abri, dans la partie basse, je crois, et la population, enfin les Brestois.
Les Brestois qui n'avaient pas quitté la ville.
Non, c'est ça, oui, ça faisait partie
de ce qui était
ce...
indispensable.
Voilà, il y en avait qui aussi n'avaient pas voulu quitter. Ouais. Voilà, pour ne pas quitter leurs biens, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est toujours des périodes où les pires instincts se réveillent, et en particulier, il y a des pillages. Quand les zones, les villes sont un petit peu ouvertes comme ça, ou prêtes à être assiégées, il y a des gens qui en profitent. Donc les gens étaient restés là, et alors on ne saura jamais vraiment, mais il est probable, c'est la version la plus admise, et dès les débuts, qu'un soldat allemand ivre, ils avaient beaucoup bu apparemment, parce que eux, c'était encore un autre état d'esprit, ils étaient en train de perdre la guerre, ils le savaient, il ne faut pas se faire d'illusions. Et il aurait mis le feu aux poudres qui étaient là, et donc l'abri a implosé. Et c'est là où 393 Brestois ont été tués, et le nombre d'Allemands est un petit peu plus. Mais entre 700 et 800 Allemands.
J'étais requis, parce qu'à 18 ans, on recevait un ordre de réquisition.
Paul Carquin était pompier volontaire. Il est intervenu après l'explosion de l'abri Sadi Carnot dans la nuit du 8 au 9 septembre 1944.
Parce qu'on savait que le maire était là, on était au bout de Tourville. On occupait justement où ils ont mis des munitions après, pendant jusqu'au du 5 au 14 août. Et quand il y a eu l'évacuation, les Allemands ont vu que l'abri était parti, qu'il y avait de la place, ils sont rentrés là. Et ils ont voulu nous pousser pour qu'on vienne avec les civils. Et nous, on leur a dit, mais non, on a le matériel, elle dormait dehors sur le trottoir, on avait tout notre matériel là. On dit, on ne peut pas aller là, autrement on ne bougera plus. Parce que nous, on intervenait, quand il y avait des obus qui tombaient, il y en avait. Bon, on se rendait sur place pour faire quelque chose, pour essayer de voir s'il n'y avait pas de gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes ici et qui étaient restées chez eux. Au début, on avait de l'eau, mais après, on n'avait plus rien. On travaillait qu'avec des haches pour faire la part du feu qu'on appelle le brouiller. On était toujours dehors, nous. On se mettait à l'abri quand il y avait des bombardements, ça fait. On rentrait dans l'abri que pour manger, casser la croûte et on allait où on pouvait. Quand il y a eu l'alerte, quand un Allemand est rentré, qu'il a crié au feu, tout le monde était au courant qu'il y avait des munitions. Bon, il y a eu un moment de stupeur, une panique, et puis tout le monde s'est précipité par ici. Pendant tous les jours qu'ils étaient là, ils n'ont jamais été du côté allemand, eux. Il n'y avait pas de liaison entre les Allemands et les civils. Il y avait juste une cloison qui séparait, qu'on avait fait provisoirement. Les portes en fer s'ouvraient comme ça, évidemment, puisque quand il y avait alerte, les gens se précipitaient. Donc les portes étaient bloquées comme ça. Mais quand les gens sont venus pour presser par l'intérieur, il n'y avait plus de courant, il n'y avait rien. Ça fait qu'ils se sont heurtés aux portes qui se sont fermées. Donc les gens se sont bloqués. Et à un moment donné, ils n'ont pas pu, ils étaient écrasés contre les portes, les premiers. Et il y a eu à ce moment-là l'explosion qui a refoulé le tout, une partie dehors, il y en a même qui ont été projetés assez loin. Et les munitions continuaient parce qu'il n'y a pas eu qu'une explosion. Il y a eu une forte explosion, mais après c'était des obus qui avaient été disséminés par l'explosion, qui sautaient. Ça a sauté une bonne partie de la nuit. On est arrivé ici, puis là on a vu qu'il y avait une grande flamme qui se dégageait, tout ça. On a vu qu'il n'y avait absolument rien à faire. Il y avait même deux corps qui brûlaient sur les marches, vous voyez.
Vous écoutez RCF à Brest sur 89 FM.
Alain Boulard, est-ce que le pilonnage de la ville de Brest pendant le siège, donc pendant la guerre 39-45, aurait pu être évité?
Je ne crois pas. Je ne crois pas pourquoi, quand vous êtes dans une situation comme celle-là, qui est une situation de guerre, il ne faut pas l'oublier par rapport à des choses que l'on pourrait, auxquelles on pourrait comparer maintenant, parce qu'il y a des comparaisons dont il faut se méfier. L'État nazi, Hitler, avait des ambitions très clairement affichées, mais qu'il a appliqué massivement en Europe. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas pactiser avec Hitler. Alors la question que se pose l'historien, et qui se posera toujours à mon avis, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu l'arrêter avant? La réponse est évidemment oui. Est-ce que certains, et on peut faire là la comparaison avec actuellement, est-ce que certains d'un point de vue financier avaient intérêt à ce que la guerre se passe? Ce que l'on a appelé globalement les marchands de canons, la réponse est clairement oui. Donc tout ça, c'est clair. Mais À partir du moment où la guerre est déclenchée et où les choses en sont arrivées à cela, à ce point-là, et bon, j'ai lu qu'il paraissait un livre sur un Polonais qui avait averti les autorités de ce qui se passait dans les ghettos et dans les camps de concentration, et il n'a pas été écouté pour des raisons sur lesquelles on pourra toujours s'interroger. Mais à partir du moment où, en 44, en particulier 43-44, on a quand même 3-4 ans de guerre, on voit qu'Hitler ne cédera sur rien. C'est un fou, il faut pas l'oublier. On l'a dit de Saddam Hussein, à mon avis, Saddam Hussein n'était pas fou. Hitler l'était clairement. Et on voit, aujourd'hui il est très très analysé, Hitler n'aurait jamais cédé sur rien. Quand il envoie Ramke à Brest en 1944, il lui demande de résister jusqu'au bout. Il demande de brûler Paris dans sa totalité. Donc c'est clairement un fou, et un fou ne cède pas.
Et pour Brest, la situation était peut-être différente. Il s'agissait de faire de Brest un grand port militaire allemand, non ?
Oui, mais...
Donc pas question de brûler Brest.
Il l'était pour Brest,
au contraire de Paris.
La base sous-marine, non. Mais par contre, pour les Américains, c'était une épine et c'était un symbole. Et eux, alors là, c'est là où la question, à la limite, se pose du côté des Américains. Eux n'avaient pas intérêt à détruire Brest. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas laisser là des troupes d'élite allemandes, les 5000 parachutistes de Ramke. On a des lieux comme ça qui sont clairs. Il y avait déjà un conseiller du duc de Bretagne qui avait dit « n'est pas maître de la Bretagne qui n'est pas maître de Brest ». Je crois qu'on ne pouvait pas laisser Brest comme ça. Une épine, le laisser sans le détruire, c'était permettre aux Allemands d'y rester. Bon, on ne réécrit pas l'histoire, je ne crois pas. Je ne crois pas honnêtement qu'on pouvait se permettre d'épargner la ville.
J'étais décoré pour avoir sauvé les archives de la marine.
Est-ce qu'elle vous fait plaisir, cette décoration ?
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, moi, j'apprécie toutes les... Je ne cours pas après, mais enfin, je les apprécie, bien sûr.
C'est grâce à Bernadette Cerbelot-Salagnac, de son nom de jeune fille Bernadette Lécureux, que la marine dispose encore de ses archives. Bernadette Lécureux obtient de l'occupant qu'il mette des camions à disposition pour déménager les archives au château de Kerjan. Elle-même s'y rend plusieurs fois à vélo.
Et puis alors, un jour, je suis arrivée ensanglantée parce que j'avais fait une chute de vélo. Alors la gardienne du château m'a dit « Écoutez, on ne peut pas vous laisser partir comme ça ». Ça fait qu'elle m'avait logé au château de Kerjan. Ça, je me souviens. Et c'est quelques jours après que je suis allé trouver le médecin le plus proche. Et il m'a dit que je lui devais une fière chandelle, parce que si elle ne m'avait pas soigné tout de suite, ça aurait pu être plus grave. J'en suis ressuscité. Et j'étais archiviste paléographe. C'est-à-dire le diplôme qu'on a quand on est diplômé de l'école des Chartes, et non pas de Chartreux.
Quelle image il vous reste de Brest détruit ? Est-ce que vous avez...
Oh mon Dieu, quelle image ! L'image de... Ben oui, Brest a été complètement rasé, complètement détruit. C'est ma ville natale, hein, et c'est là que j'ai eu ma profession, où j'ai beaucoup de parents et d'amis. J'ai toujours beaucoup aimé Brest, mais j'ai beaucoup souffert de sa démolition, ça c'est sûr, comme tous les Brestois. Hein. Ah oui. Lucienne Brenuga, oui, bien sûr que je m'en souviens, mais elle a péri dans l'abri, oui. Ah oui, elle m'a sauvée. J'avais une bonne mémoire, mais avec l'âge... Et puis alors, moi, je suis assez optimiste, ça fait que je tâche de me rappeler que les bons souvenirs et les mauvais, je tâche de les oublier. Parce que j'en ai connu, mon Dieu, comme tous les gens de ma génération. On a connu la guerre, même si on n'a pas fait la guerre, on en a pâti. Ah mon Dieu.
Vous êtes né où ?
37 bis rue du Château, à l'angle de la rue Traverse, au domicile de mes grands-parents maternels, le colonel La Prairie et ma grand-mère, Madame La Prairie. Ah, je ne suis pas né dans un château, non, mais rue du Château, c'est déjà ça.
Est-ce que pour terminer, Alain Boulet, on peut parler de la vie quotidienne des Brestois et des Brestoises pendant la guerre ? Certains étaient moins bien lotis que d'autres, ça dépendait par exemple si on avait un petit potager, si on avait de la famille à l'extérieur aussi, lors de l'évacuation.
Alors oui, la vie des Brestois a été un petit peu à l'image de la vie de tous les Français pendant l'occupation, c'est-à-dire une vie de restriction, à des tickets de rationnement, avec selon l'âge de la personne de la famille, etc. Avec aussi le système D, le fameux système des brouilles, qui faisait qu'on s'est mis à faire du troc avec les voisins, on s'est mis à chercher à faire du café avec de l'orge grillée, etc. etc.
Tout en toute légalité?
En toute légalité, que vous citez. Pour certaines choses, oui, pour
Qu'est-ce
d'autres,
qui était imposé
non.
Imposé par les Allemands?
Alors, les Allemands restreignaient très fortement l'usage de tout ce qui était alimentaire et courant, avec des dimensions que l'on peut penser être humiliantes pour les populations occupées.
Pour quel produit, par exemple ?
Le savon. Je pense que c'est un exemple très précis, puisque le savon était très limité, sauf pour les prostituées, et en particulier les prostituées des bordels que fréquentaient les Allemands. Donc on voit bien qu'il y a là quand même des questions. Alors pour la nourriture, il y avait les jours sans. Alors le Brestois est en plus assez gouailleur, donc on en ironisait en partie. Ceci dit, évidemment, la situation était extrêmement différente, selon votre niveau de richesse, bien sûr, comme toujours, selon votre niveau d'acceptation de l'occupation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont continué à travailler avec l'occupant, et même à faire fortune, il y a des gens qui se sont enrichis par la guerre. À Brest, c'est une minorité, probablement. Il y avait par contre plus de résistants que dans la moyenne nationale. Et le résistant, ça veut dire quoi? Ça veut dire une vie qui est exaltante pour les jeunes. J'ai un de mes cousins qui a été déporté, qui était comme ça. Évidemment, pour un étudiant, c'était quelque part la folie que l'on fait étant étudiant, qui prenait un autre sens. C'est-à-dire que si on allait voler une arme à l'hôtel Continental, par exemple, il devait y avoir une poussée d'adrénaline extraordinaire. Mais pour les autres, un peu plus raisonnable, il y avait toute cette angoisse. Et on pense, lorsque les francs-tireurs ont attaqué, par exemple, le poste de police de Saint-Martin, où il y avait des gens emprisonnés pour les libérer, il y a une femme, Madame Carella, qui a refusé de partir, et d'autres femmes qui sont restées, par peur des représailles, alors qu'elle était résistante elle-même, mais qu'on pouvait exercer sur son mari, qui en fait avait déjà été fusillé. Donc, il y a cette situation-là où du coup, on vit dans une angoisse permanente. D'un côté, on a des poussées d'adrénaline, on fait ce que l'on estime être son devoir contre l'occupant, son devoir de résistance. Alors, chez les plus jeunes, il y a cet aspect un petit peu... on brûle sa jeunesse, je veux dire, ça existe de tout temps. Pour les personnes plus mûres, ils risquent leur vie, ils risquent, bon ça c'est possible aussi, mais ils risquent celle de leur famille, ils risquent celle de leur entourage. Et puis l'homme est quand même quelqu'un qui a peur, on n'a pas envie de passer par bonne nouvelle où les résistants sont torturés. Il y a ceux qui sont attentistes, je dirais, qui vivent comme ils peuvent, tant bien que mal, qui en général n'aiment pas l'occupant, mais qui, pour des raisons multiples, et qu'il ne convient pas de juger moralement surtout, ne cherchent pas à être actifs.
Qui ont un petit peu peur aussi peut-être.
Ils ont peur, ils ont envie de vivre, voilà. Et ceux-là, très souvent, par exemple, on le sait, applaudissent quand les Anglais ou les Américains bombardent, pourvu qu'il n'y ait personne de tué, bien sûr. Donc je crois que les situations sont extrêmement différentes. Alors pour tous, il y a aussi toutes les infirmières,
collaborateurs aussi, vous n'en avez pas parlé.
Alors les collaborateurs, ils sont relativement peu nombreux à Brest, d'après ce que l'on sait et de façon assez certaine. Ils sont très mal vus, il y en aura, alors c'est toujours le problème, il y a ceux que l'on accuse d'être des collaborateurs, même s'ils ne le sont pas aussi, Le Père Tranquille, c'est un film qu'il avait bien montré, mais ceux-là, ils ont des motifs divers, les uns qui sont sordides, d'intérêt, de jalousie à l'égard de voisins. Il y a des histoires comme partout.
On règle ses comptes.
On règle ses comptes, à bon compte, je dirais. Il y en a d'autres qui croient dans la parole du maréchal Pétain et qui donc sont persuadés que, quelque part, on peut avoir confiance. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, des gens qui... Il ne faut pas oublier l'action de l'action française, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, et des croix de feu, de choix. Alors, les croix de feu vont devenir, pour la plupart d'entre elles, résistantes. Mais il y a aussi toutes ces... Par exemple, la Légion des volontaires contre le bolchevisme. C'est-à-dire que par anticommunisme, certains, d'un point de vue religieux, anti-athéisme, vont, en fait, souhaiter la victoire du Reich, qui pendant un temps apparaît comme une espèce de rempart contre le communisme. Et donc tout cela est très, très ambigu. Tout cela est très ambigu, et je pense que c'est... nul ne connaît... Enfin, il faut sonder les reins et les cœurs. Je ne sais pas si on, comment le faire, et je suis toujours... Lorsqu'on a jugé Papon, j'ai eu l'occasion de dire que j'étais très content de voir que si jamais la même situation que pendant la guerre se reproduisait, il y aurait en France 60 millions de résistants, et qu'à leur tête, il y aurait tous les journalistes et tous les profs d'histoire. Je ne suis pas sûr que la situation serait... Mais c'est très facile d'avoir bonne conscience et bon moral. Moi, je me suis toujours posé la question, et j'espère que je me la poserai jusqu'à la mort, parce que je n'aurai pas l'occasion de m'y affronter. Qu'est-ce que j'aurais fait ?
Merci à notre invité, l'historien brestois Alain Bouler, à Paul Carquin et à Bernadette Cerbelot-Salagnac, de nous avoir fait partager l'histoire du siège de Brest jusqu'à sa libération le 18 septembre 1944. Ce vendredi 18 septembre, mais 2009 cette fois, plusieurs cérémonies de dépôt de gerbes sont prévues dans le cadre de cet anniversaire. Le lendemain, samedi, à partir de 10h15, place de la Liberté, Brest se verra remettre le drapeau des villes médaillées de la Résistance française.